Madame, monsieur, bonsoir.
Jusqu'alors, nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas.
Le radar a été perdu vers 19h à la hauteur du Mont Saint-Odile, près de Strasbourg.
Et sur le mur, écrit avec des lettres de sang, Omar, le nom du jardinier.
Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
Fait d'hier.
Ce que je crains aussi, bien sûr, c'est comme tous les solitaires, le risque de passer par-dessus bord et d'avoir personne pour vous pêcher. Pour passer par-dessus bord et voir le bateau qui s'éloigne, c'est la hantise de tous les solitaires. On fait tous ce cauchemar-là un jour ou l'autre la nuit.
Chaque mois, Femme Actuelle Senior vous replonge dans une affaire qui a défrayé la chronique. Revivez les événements comme si vous y étiez et découvrez le fin mot de l'histoire. Dans cet épisode, Alain Colas, disparition au long cours. Décembre 1978. Sur la ligne d'arrivée de la première route du Rhum, l'un des favoris de la course manque à l'appel. Il s'appelle Alain Colas. Aujourd'hui encore, son nom reste associé à un drame et un mystère jamais élucidé. Nous sommes le 16 novembre 1978, lors de la première route du Rhum. Les 36 concurrents de cette transatlantique en solitaire à la voile ont pris la mer à Saint-Malo 11 jours plus tôt. Ils doivent rallier Pointe-à-Pitre. Il est 4h du matin et la tempête fait rage de tous côtés. Le navigateur, Alain Colas, émet un inquiétant message radio.
Je suis dans l'œil du cyclone. Il n'y a plus de ciel, tout est amalgame. Il n'y a que des montagnes d'eau autour de moi.
Le marin barre seul au large des Açores, à bord du Manureva, un multicoque léger. En tahitien, ce nom signifie « oiseau du voyage ». Et comme un oiseau, l'embarcation de Colas vole à une vitesse affolante. La mer forme des creux monstrueux. À cet instant, Alain Colas, l'un des plus grands skippers de son temps, a-t-il peur ? Nul ne le sait. En tout cas, ce n'est pas le premier coup de tabac qu'il endure. Aux dernières nouvelles, il faisait la course en tête. Et s'il tient la corde, c'est parce qu'il n'a pas choisi la facilité. L'itinéraire qu'il a retenu est périlleux. Il a pris le chemin le plus direct, qui passe par l'archipel des Açores. Les vents y sont peu favorables. Il aurait pu suivre plus au sud la route des Alizés, avec ses vents porteurs pour une embarcation légère comme la sienne. Mais l'itinéraire est plus long. Alors tant pis, il va au plus court, il va au plus vite. De toute façon, l'homme maîtrise parfaitement son bateau. Il se sait capable de le mener à bon port en tirant droit, même par vent contraire. Il faut dire qu'entre Manureva et Alain Colas, c'est une vieille histoire d'amour. Avant, le trimaran appartenait à Éric Tabarly, son mentor. Il a appris le métier avec lui. Alors, quand il a mis en vente son Penduic, Alain Colas a sauté sur l'occasion. Il a vidé son compte en banque pour s'offrir ce multicoque de plus de 20 mètres de long, très moderne pour l'époque.
Il marche très, très vite. Un engin de performance conçu autour d'une idée de base. Traverser l'Atlantique le plus vite possible, à la voile, un bonhomme tout seul à bord. Et plus un bateau est grand, plus il va vite. C'est valable pour toutes les formules de voilier. En plus de cela, il est très puissant, il est très homogène, il est très rigide.
Colas lui donnera un nouveau nom, Manureva. Une manière de couper le cordon avec Éric Tabarly. Le voilier a déjà rendu 10 ans de bons et loyaux services. Ça fait beaucoup. Mais dans la tempête des Açores, ce soir de novembre 78, Colas est serein. La course a bien commencé.
Retrouver le contact avec Manureva. Maintenant, chaque geste s'enchaîne bien. Le pied se pose au bon endroit. La main, l'épaule, s'appuie là où il faut. Je mène Manureva d'une façon beaucoup plus pondérée, beaucoup plus intériorisée, et je crois que le bateau apprécie. Et je pense qu'en ce moment, on fait de la très bonne route. Bonjour à toute l'équipe.
Il a déjà doublé les autres participants. Et au micro des journalistes de RMC qui l'interviewent par radio, il semble confiant. Jusqu'à ce dernier message du 16 novembre, en pleine tempête. Depuis, il n'a plus donné signe de vie.
Ça y est, je crois que nous allons vivre ce moment. Dans une minute, Birch va doubler Malinowski. Ça y est, nous sommes à la hauteur des deux bateaux. Michael Birch n'est plus qu'à 10 mètres derrière Malinowski. 10 mètres.
13 jours plus tard, les premiers concurrents de la route du Rhum arrivent à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Mike Birch l'emporte sur Michel Malinowski avec 98 petites secondes d'avance. Cette arrivée fracassante capte l'attention du public. Mais un doute s'insinue déjà. Pourquoi Alain Colas n'est-il pas là? Il se trouvait dans les premiers. Les heures passent et les skippers se succèdent sur la ligne. Toujours pas de Manureva en vue. Personne n'a de nouvelles. Les autres compétiteurs parlent du mauvais temps, d'un cyclone terrible. Mais Alain Colas est du genre à communiquer beaucoup par radio avec ses adversaires. Alors pourquoi n'aimait-il plus? Ce silence ne lui ressemble pas. Des tempêtes et des grains, il en a vu d'autres. La première fois, c'était en 1967. Il n'avait que 24 ans. Il venait juste de rencontrer Eric Tabarly à Sydney, en Australie. À l'époque, le jeune homme rêve déjà de voyages au long cours. Tabarly lui propose d'embarquer comme cuistot le temps d'une traversée jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Olivier de Kersauzon est aussi du voyage. Les trois hommes prennent la mer sur un petit voilier. Une nuit, ils croisent la route du cyclone tropical Brenda. Une vraie furie d'eau et de vent, avec des rafales à plus de 150 km/h. Tout autre capitaine y aurait laissé des plumes. Pas Tabarly. C'est au cours de ce périple qu'Alain Colas apprend le métier. Après cet épisode houleux, Colas vivra d'autres coups durs. Mais il connaît par cœur les gestes à effectuer. Il peut lire le vent et les vagues. Il a remporté plusieurs courses en solitaire. Il a échoué aussi. En 1976, lors de la transat anglaise, ses voiles se déchirent. Il entend alors à la radio qu'il a distancé ses concurrents. Il s'autorise donc une escale pour réparer son embarcation. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée quelques jours plus tard, un autre navigateur a déjà raflé le titre. Tabarly. Pour 7 heures de retard, la victoire lui échappe. Il vit ça comme un échec intolérable, et c'est certainement ce qui le pousse à braver tous les dangers pendant cette première route du Rhum. Sur la ligne d'arrivée en Guadeloupe, l'inquiétude monte. Cela fait plusieurs dizaines d'heures que le navigateur n'a pas donné de nouvelles. Le 1er décembre, un avion rentre bredouille d'un vol de reconnaissance. Sur Antenne 2, au journal de 20h, Patrick Poivre d'Arvor annonce
« Messieurs, bonsoir. Jusqu'alors, nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas, qui n'est toujours pas arrivé à Pointe-à-Pitre, mais cette fois, disons-le, on a vraiment peur pour lui. Le brigand atlantique de la Marine nationale est revenu bredouille de sa mission la nuit dernière. »
L'affaire devient nationale. Même François Mitterrand, premier secrétaire du Parti socialiste, prend la parole. Il faut l'aider. Alain Colas, c'est l'un des plus beaux exemples pour la jeunesse française. C'est un homme de l'effort, du courage et de la compétence. L'absence inexpliquée de Colas ne laisse personne insensible. Chacun y va de son commentaire. On dit par exemple qu'il n'était pas en grande forme. Il faut dire qu'il a vécu des moments difficiles ces dernières années. En mai 1975, à la Trinité-sur-Mer, un grave accident le laisse à quai pendant des mois. Alors qu'il rentre au port, à bord du Manureva, il largue l'ancre. Un geste qu'il a répété 1000 fois. Mais ce jour-là, sa jambe se prend dans un bout et le nœud se referme. En quelques secondes, sa cheville est broyée. Il risque d'avoir le pied arraché, mais il parvient à couper le cordage juste à temps. Il sauve son pied, mais sa jambe a beaucoup souffert. Il paiera très cher cette maladresse. On le transporte à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes. Il faut l'anesthésier. Il hésite et accepte après avoir obtenu la promesse qu'on ne l'amputera pas. À son réveil, Alain n'envisage pas une seconde de renoncer à sa carrière. Il reste alité pendant 6 mois et endure 22 opérations avant de pouvoir sortir enfin de l'hôpital. On le voit boiter pendant des mois. Les commentateurs se demandent s'il était prudent d'embarquer pour la route du Rhum à peine 2 ans plus tard. Pour couper court à toutes les rumeurs qui circulent, son père prend la parole.
Est-ce qu'au départ, Alain Colas n'avait pas quelque appréhension ?
Absolument pas. Je ne l'ai jamais vu aussi joyeux, depuis longtemps. Il était heureux de renouer avec son bateau et avec la mer. D'ailleurs, comme sa femme a su le dire, plusieurs fois, il y avait déjà 8 jours qu'il était en mer, quand il est parti.
Dans cette affaire, vous conservez bon espoir ?
Conserve toujours un espoir, monsieur. Alain est un excellent marin, il est résistant, malgré son pied, qu'on accuse d'un tas de choses, mais son pied... Il est parti en pleine forme.
Le docteur Bainvel, le chirurgien qui a opéré et soigné le navigateur, confirme. L'état de santé d'Alain Colas était excellent avant son départ pour la route du Rhum et ne peut être responsable d'un accident. Pendant quelques jours, on veut croire que le skipper n'a rencontré qu'un problème technique d'émetteur radio. Nous espérons qu'il va débouler à un moment quelconque sur une côte, vers la Guadeloupe ou ailleurs, déclare son père. Seulement personne n'est dupe. Il y a une ville en France où l'on suit cette affaire d'encore plus près. C'est à Clamecy, dans la Nièvre. Alain Colas y a grandi. Les gens se souviennent bien de lui. Qui pourrait l'oublier ? Adolescent, il passait ses journées à nager et à sauter d'un plongeoir au-dessus de la rivière. Alors, lorsque la mairie décide de retirer ce plongeoir, il s'insurge. Il écrit au maire pour dénoncer cette décision et annonce qu'il va créer un club de canoë-kayak. Il a 19 ans seulement et aucune idée de la manière dont on fabrique un bateau, mais il apprend sur le tas. Il entraîne tout un groupe d'amis avec lui et il mène son projet à terme. Déjà à cet âge, on ne l'arrête pas si facilement. Chez les skippers aussi, on se fait du mouron. Tous les marins qui courent en solitaire savent qu'à un certain niveau de déchaînement des éléments, le talent ne suffit plus. Ils ont tous adopté ce garçon né dans les terres que rien ne prédestinait à une carrière sur les océans. D'ailleurs, à ses débuts, ils l'ont surnommé le Morvandio flottant. C'est un personnage atypique dans le milieu. Avant d'entrer dans le sillage de Tabarly, qui l'initiera à la pratique, Alain Colas a appris toute la théorie des bateaux dans des livres empruntés à la bibliothèque. Sa curiosité est sans limite. Il a toujours une longueur d'avance, pense vite, épuise son entourage de questions. « Au bout de quelques nuits passées à dévorer tous ses livres, raconte-t-il, je connaissais la manœuvre d'un spi sans jamais en avoir vu un seul. » Philippe Gildas, ami d'Alain Colas.
M'a étonné parce qu'il avait une capacité, au fond d'étudiant, et d'étudiant sérieux, une capacité à apprendre assez exceptionnelle, doublée d'un culot monstre. C'est peut-être ce qu'on lui a reproché le plus d'ailleurs ensuite, cette espèce de prétention affichée qui faisait que ça paraissait par moments un peu éhonté. En réalité, il était très timide et ça cachait une ambition forcenée. Il avait l'envie de démontrer que celui qu'on appelait le petit cuisinier, là, pouvait être un grand marin.
L'aventure le démange et rien ne semble lui faire peur. En 73, il part pour un tour du monde en solitaire à bord d'un multicoque. Avant lui, personne n'avait jamais fait ça. Son itinéraire passe par l'Australie et les 40e rugissants. Le temps y est effroyable. Ensuite, c'est le Cap Horn, dont les vents furieux, les terribles vagues et les icebergs ont envoyé bien des grands voiliers par le fond. Mais il en faut davantage pour refroidir M. Colas. Il veut son baptême, il l'aura.
Il y a un moment dans la vie d'un marin, dans la vie d'un navigateur, où il faut aller voir le Cap Horn. C'est pas seulement la vertu magique de cet énorme rocher isolé à l'autre bout du monde, au bout de la Terre de Feu, vous savez, prolongeant le continent américain en direction de l'Antarctique. Il n'y a pas seulement ça, mais c'est chargé d'histoire, le Cap Horn. Il faut imaginer tous ces grands trois mâts, tous ces quatre mâts qui ont bataillé pendant des décades et des décades sur les routes du commerce, qui les obligeaient à passer par ce coin difficile.
Le 8 septembre 73, le navigateur s'élance sur les traces des grands bateaux qui l'ont précédé dans ces eaux mythiques.
On va passer le Cap Horn. Cette masse rocheuse qui pénètre virilement dans l'océan, où toute la dentelle des sommets, des anfractuosités traduit bien la dureté de ces mers-là, où il y a une espèce de fondu de glauque enchaîné entre le ciel et la mer. Et on passe. Et on s'en remplit la vue.
Il franchit le Cap Horn le 3 février de l'année suivante et arrive à bon port le 28 mars, 48 000 km en 169 jours, avec une unique escale à Sydney. Record du monde battu de 32 jours. Son nom entre alors dans l'histoire. Avec cet exploit, il gagne le respect de ses pairs et un statut d'icône. À côté des marins taiseux, son charisme et son bagout tranchent. Les journalistes lui courent après. En communiquant à visée, il sait jouer de son image d'aventurier. « Mon bateau, dit-il devant les micros, c'est le prolongement de moi-même. Il fait partie de moi ou je fais partie de lui, si vous voulez. On se connaît, je sais ce qu'il vaut, je sais ce que je peux faire avec lui. Je sais jusqu'où je peux aller et après jusqu'où il ne faut plus continuer. » Le navigateur tient à partager sa vision de l'aventure. Il veut entraîner le monde entier à sa suite et rendre toutes les ambitions possibles. Le public adore. Olivier de Kersauzon, navigateur proche de Kola.
Il transmettait. Il transmettait son émotion, ses joies, ses difficultés. Il le faisait de façon bien. C'est les gens ne se trompent pas, le public et les gens qui viennent dans une salle et qui écoutent quelqu'un qui parle. S'il n'est pas authentique, il peut aller se faire jeter. Hein. Et bien là, je veux dire, ça passait. La salle, elle écoutait, mais tu vois, t'aurais entendu un notaire voler. Hein. C'était silence total et tout. C'était génial.
Alors, en ce début décembre 78, après plusieurs jours sans nouvelles, la France s'alarme pour son skipper vedette. Comme il l'a dit un jour dans une interview, « Lorsque vous avez affalé les voiles, mis le cap sur l'arrière, relevé la dérive, établi une ancre flottante et que les vagues déferlent encore, alors on se dit heureusement qu'il y a un bon Dieu, car humainement, en tant que marin, on ne peut plus rien. » Les secours sont à l'œuvre, les recherches se poursuivent. Des avions survolent inlassablement l'océan Atlantique. La zone de recherche couvre 2 millions de kilomètres carrés. Aucune trace d'Alain Colas. On étudie toutes les pistes. On parle un jour d'un appel à l'aide prétendument passé depuis le Manureva. C'est un mauvais renseignement. Lorsque Jacques Palassé, un concurrent dont on était sans nouvelles depuis des semaines, arrive à Pointe-à-Pitre, on se reprend à espérer. Alain Colas va peut-être, lui aussi, réapparaître. Toutes sortes d'hypothèses émergent. Et s'il avait heurté un cargo dans le noir ? Ou si, blessé, il dérivait au milieu de l'océan, à moins que son embarcation n'ait coulé sans laisser de traces? On murmure que le Manureva était trop vieux pour une telle traversée, que les vérifications du multicoque ont manqué de rigueur. Rien de tout cela n'éclaircit le mystère et sa famille balaye ses affirmations. Dans l'hystérie qui s'empare des commentateurs, quelques remarques venimeuses et des théories folles circulent. On rappelle que sa balise de détresse a été oubliée à quai avant le départ. Une étourderie ou une omission volontaire? Certains soulignent même que le marin avait des dettes. Aurait-il sciemment disparu pour échapper à ses créanciers? Abject, réfutent ses proches. Fuir ses problèmes en abandonnant les siens, c'est inimaginable de la part d'un homme comme Alain Colas.
Moi je me disais, pendant que mon frère est en train d'agonir, qu'il a peut-être plus d'eau, plus rien à bouffer, il y a des espèces de salauds qui racontent ce genre d'histoire. Alors qu'Alain, c'était la vie même.
Alors, il faut bien se rendre à l'évidence. Alain Colas ne reviendra pas. La mer a emporté le marin, âgé de 35 ans seulement.
La Marine nationale a décidé de stopper les recherches aériennes. Depuis le 24 novembre, plus d'un mois...
Le 27 décembre, les autorités annoncent l'arrêt des recherches et le déclarent officiellement disparu. On ne connaîtra jamais le scénario exact du drame qui a conduit à ce funeste dénouement. Le frère du navigateur, Jean-François, avance une explication toute simple. Alain est mort en voulant se dépasser. Avant la course, il avait installé à l'avant du Manureva un nouveau SPI, une voile de 300 mètres carrés. Déployée par vent arrière, l'immense toile est capable de vous faire gagner une vitesse considérable. Mais en plein cœur d'une tempête au-dessus d'une mer démontée, cette arme secrète pouvait se retourner contre vous et planter votre bateau sur une falaise d'eau. Et contre cela, même un marin de la trempe de Colas n'y pouvait rien. 6 mois après le drame qui a secoué tout l'Hexagone, Serge Gainsbourg écrit une chanson en forme d'hommage. Son interprète, Alain Chamfort, en fera un tube. La France entière fredonne. Le succès est énorme, à la mesure de la légende qui continue encore aujourd'hui d'entourer Alain Colas. Ce texte, écrit par Thibaut Panis et adapté par Bénédicte Aubry et Elsa Delavergne, a été enregistré par Diane Mottez, mixage Lucas Vibault.